Et voilà, toute l'équipe de Comaguerre est avec vous à l'antenne sur 88.4 MHz, sur le DAB et sur Internet via www.radiogalère.org. Donc je salue Roselyne. Bonjour Roselyne.
Bonjour, oui, Roselyne.
Bonjour, voilà. bonjour à tous les auditeurs, voilà. auditrices.
Et je salue Habib.
Je salue Bernard.
Voilà. Alors je vais commencer par la grande nouvelle du jour. Tenez-vous bien. Emmanuel Macron a démissionné ce matin. Bon, alors, vous doutez bien que je n'allais pas rater une occasion pareille, une émission le 1er avril. Alors, bien entendu, vous pensez qu'il ne démissionnera jamais. Il en est totalement incapable. Il est même incapable de penser à une démission éventuelle, puisqu'il est Jupiter, souvenons-nous. Il plane au-dessus des masses, etc. Bon, donc, ça ne l'effleure pas. Et pourtant, tenez-vous bien, ce qui s'est passé dans les jours précédents, ce 1er avril 2025, c'est que M. Macron a perdu une jambe. Comment ? Il a été accidenté ? Il est tombé de moto ? Non. Je m'explique. À l'Élysée, il y a deux personnes qui comptent beaucoup dans la vie, dans les pensées et dans les ambitions de M. Macron. Il y a d'une part Mme Trogneux, Brigitte, son épouse devant l'État civil, et d'autre part M. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. M. Alexis Kohler a quitté l'Élysée la semaine dernière pour devenir... On ne verse pas de larmes sur M. Alexis Kohler, directeur général adjoint de la Société Générale et donc futur directeur général de la Société Générale. Donc, une des quatre plus grandes banques françaises avec des intérêts dans le monde entier. Ne versons pas de larmes sur M. Alexis Kohler. Il ne le mérite d'ailleurs pas. Car s'il part, c'est toute une partie de l'édifice macronien qui s'affaiblit. Je dis perdre une jambe, c'est vraiment symbolique, c'est très très fort. Parce que tout ce qui était coup dans les affaires, coup dans le business, accord avec des milliardaires, dessous de table en milliards de dollars, etc., c'était pas Brigitte qui s'en occupait, c'était Alexis. Bon, sans Alexis, les choses ne vont pas tout à fait se passer de la même façon. Alors, il sera bien sûr remplacé par un autre qui était déjà sur place, mais M. Alexis savait tout depuis longtemps, y compris, je le dis, parce que M. Alexis est poursuivi devant les tribunaux pour un certain nombre de prises d'intérêts illégales. Je ne m'étends pas dessus, puis on en a déjà parlé, mais parce qu'au fond, tous les financements de la campagne électorale des deux campagnes électorales de M. Macron, la partie visible étant les comptes officiels déposés auprès du Conseil constitutionnel, et puis il y a la partie qu'on ne voit pas, qui sont en fait des tricheries, des dessous de table, des arrangements, de l'argent mis sur des comptes à l'étranger qui permet de faire une campagne très très importante, de mobiliser tous les médias, de faire une campagne, j'allais dire, à l'américaine. Oui, je le dis parce que je le pense, c'est exactement comme ça. Et ça, seul Alexis Kohler le savait. Il savait d'où venait l'argent, il savait combien il y en avait, et il savait comment le faire fructifier.
Bon, un peu comme Sarkozy, là.
Voilà, alors, dans la même République. Ouais. Là, Macron était là pour le spectacle. Hein, je suis sur les tribunes, les tréteaux, je parle, je fais des effets de voix, etc. Kohler était là en disant, il y a l'argent, tu peux y aller. Bon, c'était ça que ça voulait dire. C'était très, très important. Il n'y a plus ça. Monsieur Kohler est parti, et manifestement, il est parti. Alors, moi, je ne suis pas les chroniques dans les boudoirs et dans les centres d'antichambre, mais il était fatigué. Fatigué parce que je pense qu'il travaillait beaucoup, hein, parce qu'il faut suivre le rythme du personnage, toujours entre deux avions, toujours en train de dire un truc sur n'importe quelle chose du monde, etc. Et donc, il était fatigué, je le comprends. Et puis, je pense qu'il devait se sentir mal à l'aise. Et ce qui a été mis en avant, et qui me paraît un motif politique valable, c'est qu'il considérait que la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin 24 était une erreur politique qui allait peser lourd, elle pèse tous les jours sur la vie politique de ce pays depuis cette date de la dissolution, et il considérait que c'était une erreur. Et il en voyait peut-être venir les conséquences pas si tardives, assez bientôt. Donc il était inquiet par rapport à ce qui allait se passer. Il a fait une énorme erreur, peut-être même il a décidé un peu tout seul sans demander à Alexis Kohler. C'est ce qu'on a dit à l'époque, qu'il avait décidé comme ça sur un coup de tête, et donc M. Kohler a dit là on va dans le mur, je m'en vais, l'endroit devient dangereux. Alors l'endroit devient dangereux. Pour un monsieur qui va devenir directeur général de la Société Générale, c'est pas très très grave. Mmh. Ce qui est dangereux, c'est que l'endroit dangereux, c'est la France dans son entier qui y est. Car ce monsieur maintenant, livré à ses fantaisies et à ses élucubrations, est en train de vouloir mener la France dans une guerre. Que les choses soient bien claires.
Oui, oui.
C'est là-dessus qu'il faut que nous soyons bien, bien, bien conscients, tous autant que nous sommes, il veut nous emmener dans une guerre. Alors ça se fait à coup de milliards d'euros. Alors vous savez que là, par rapport à la demande excessive de Madame Ursula von der Nazi, vous m'avez compris, il faut 800 milliards d'euros, rien que ça. Mais en fait, ça grince un peu dans les coulisses parce que il y a un certain nombre de pays qui sont déjà assez endettés, qui ont de très très grosses dettes. Je veux parler de l'Italie, je veux parler de l'Espagne, je veux parler de la Grèce et je veux parler surtout de la France, qui disent mais je peux pas encore rajouter un endettement, donc on va se débrouiller avec les moyens du bord. Alors vous avez tous compris, chers auditeurs, chères auditrices, les moyens du bord, c'est vos poches, la poche droite, la poche gauche, la poche de derrière, la poche de devant,
partout.
Tout va y passer, hein, vous avez bien compris. Tout va y passer, pourquoi? Alors ça, on voit bien l'objectif, faire comme si on avait 800 milliards, on les a pas, on les prend dans les poches des citoyens, ça va. Pour aboutir à quoi? C'est là qu'il faut un peu plus réfléchir, à part l'émotion, et dire on va nous voler, on va être victime d'un hold-up dans la rue, organisé par Monsieur Macron. Bon, on va pas se laisser faire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, refaire une défense nationale ou une défense européenne, vu le point de départ de cette défense de l'Europe aujourd'hui, c'est un travail de 5 ou 10 ans. C'est ça qu'on nous dit pas. On dit, ou vite, il faut réarmer, etc. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens en ingénieurs. Il n'y a pas les moyens en bureau d'études. Il n'y a pas les moyens en finances. Il n'y a pas les moyens, toute une série d'industries qui manquent. Et il faut savoir que, aujourd'hui, les industries de l'armement européenne sont toujours, à un moment donné ou à un autre, dépendantes d'un petit morceau qui vient des États-Unis. Quand c'est pas simplement, on achète aux États-Unis une chose qu'on ne sait pas faire. J'ai toujours une pensée émue pour le deuxième porte-avions dont la construction a commencé. Bon, vous savez que sur un porte-avions moderne, il faut une catapulte pour lancer les chasseurs en air. Bon, la France ne sait pas faire les catapultes, donc sur le futur le remplaçant, il y aura une catapulte fabriquée aux États-Unis. Si jamais, alors imaginez que le président de la République de l'époque, ça sera plus Macron, disent aux États-Unis, ah oui, mais je veux pas, on dira, il y a qu'un que ça, et ils lui diront, si tu prends pas nos catapultes, ben ton porte-avions, il sert à rien. Hein? Par contre, une fois que c'est nous qui catapultons, c'est les États-Unis qui catapultent les rafales français, on te dira où catapulter, on te dira où aller, c'est pas toi qui décidera, parce que c'est nous qui avons rendu le porte-avions opérable. Mais toi, bien ça. Alors il l'a dans la tête, mais il joue, il triche, il fait croire qu'il est le maître du monde. C'est pas vrai. Donc ce qu'il faut bien voir, et quand j'ai dit 10 ans pour avoir une armée européenne ou française qui tienne la route, je suis très très faible dans mon estimation. Des spécialistes disent c'est plutôt 15 que 5. Parce que il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Il faut se souvenir, et d'autres en ont fait l'expérience amère, que l'armée française, ces deux ou trois dernières décennies, n'a fait que des opérations coloniales de maintien de l'ordre, avec quelques milliers de personnes, quelques chars dans le désert.
Ouais,
c'est pas du tout ça. La guerre qui est en train d'avoir lieu, en Ukraine en particulier, c'est une guerre d'un type tout à fait différent, dans laquelle la France n'a aucune prise. Même si on va nous dire, il y a tel drone qui pourrait marcher, il y a, oui, un petit morceau. Mais en fait, nous ne sommes pas la France, moi je ne m'implique pas dans le nous, la France n'est pas en capacité de mener la guerre contemporaine telle qu'elle se mène aujourd'hui. D'ailleurs, cette guerre a beaucoup évolué. Je leur ai dit, il faut que les gens sachent, parce qu'on ne nous le dit pas, on parle de nombre de morts, de succès de l'Ukraine, etc. Il faut savoir que entre février 2022 et mars-avril 2025 où nous sommes, la guerre d'Ukraine s'est totalement transformée. Et on a affaire à la première guerre moderne, avec tout ce que ça implique de drones, de contrôle de la communication, etc., que nous ne connaissons pas, parce que l'armée française n'a pas été préparée à ça, il n'y a pas eu les finances pour le faire. Bon.
Donc, on se rend compte par la position de Zelensky,
Voilà.
Qui demande tout de suite la paix.
Bien sûr, voilà. Parce qu'effectivement,
oui.
Et encore que lui a bénéficié un peu de l'aide technique de l'OTAN et des États-Unis.
Oui.
Mais à lui tout seul, mais effectivement, les États-Unis probablement ne s'attendaient pas non plus, alors qu'ils donnaient des conseils, ils donnaient des messages d'information sur où étaient les chars russes, où étaient les forces russes, etc. Les États-Unis eux-mêmes ne pensaient pas en mars 2022 que la guerre se déroulerait comme ça et que la Russie ferait de tels progrès dans la maîtrise de ce type de combat, qui est un type totalement nouveau. C'est ça qu'il faut. Alors, donc, quand on nous parle de faire la guerre à la Russie, c'est pitoyable, désespérant de bêtises, désespérant, parce que c'est pas possible, on ne sait pas la faire, on n'a aucun matériel pour le faire, et on n'en a même pas l'expérience.
Mais la Russie ne fera jamais la guerre à l'Europe.
Voilà, alors, deuxième aspect politique, raisonnons de la même façon. La Russie, qui a les moyens militaires d'écraser une armée européenne à venir dans 15 ans, n'a pas envie. C'est pas son problème.
Non.
C'est pas son problème. La Russie, elle a un immense territoire à gérer, elle a une population à gérer, elle a des amis qui sont la Chine, qui sont le Brésil, qui sont l'Afrique du Sud et tout. Donc, elle travaille avec ses amis. Et puis, elle a des liens de plus en plus étroits avec toute une série de pays dits, qu'on aurait dit du tiers-monde à l'époque, pays d'Afrique et tout. Et ça lui suffit à son bonheur. Elle n'a pas besoin d'espèces de guignols, que ce soit le guignol Zelensky ou le guignol le nôtre. Voilà. Non. Elle n'a pas besoin de ça. Quel avantage elle en tient ? Quelle ressource ? Alors, on va dire, la Russie veut piller. Mais piller la France, ça veut dire quoi ? C'est ridicule. Hein ? Parce que, bien, je veux dire, la France a des terres à blé. Hein ? La Beauce, la Brie ont fait du très bon blé. Mais la Russie fait du très très bon blé, et beaucoup plus que nous. Bon, qu'est-ce qu'on va leur apprendre ? Ah ben alors, la seule chose, je le dis parce que ça fait partie des choses qu'on ne nous raconte pas. Vous savez qu'il y a en Ukraine toute une série de centrales nucléaires pour produire de l'électricité, qui sont toutes d'un modèle fabriqué du temps de l'Union soviétique, voilà, et alimenté en combustible par l'organe soviétique qui le produit et qui continue à le livrer dans les centrales, en particulier la grande centrale de Zaporojye, qui sont sur le territoire russe aujourd'hui. Bon. Ce que j'ai appris, et qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il y a c'était le mois dernier, Orano, qui a succédé, donc vous savez, l'entreprise nucléaire française, avait proposé du combustible nucléaire à Zelensky. Donc Orano était en train de se préparer à prendre la place de Westinghouse américain, qui avait proposé la même chose. Alors ça, on vous le dit pas. Ça, on vous le dit pas. Alors, on ne dit pas que Westinghouse n'est pas très très bon, puisqu'il a quand même fait faillite et que ses centrales nucléaires, personne n'en veut. On ne vous dit pas que la France a fait une proposition. Et ça donne un éclairage, j'en profite pour le dire maintenant, sur ce que ça veut dire que le dépeçage de l'Ukraine. Et la position de Zelensky, à mon sens, elle s'explique comme ça. Zelensky a fait en sorte qu'il a mis de côté ce qu'on appelait les oligarques ukrainiens. C'est-à-dire les gens, les riches, les très très riches ukrainiens, qui avaient mis la main sur toutes les industries nationalisées du temps soviétique, et qui étaient devenus ce qu'on appelle les oligarques, très très riches, claquant l'argent, etc. Le genre Porochenko, l'ancien Premier ministre, genre toute une série, Pinchuk, Kolomoïsky, je ne vous donne pas les noms, enfin on les connaissait. Ces gens-là ont été écartés par Zelensky, et qui a offert toute l'industrie ukrainienne à des étrangers. Alors pourquoi il a fait ça ? D'une part, c'était son idéologie, mais d'autre part, il s'est dit, je vais dire à ces gens-là qui m'achètent ici une usine d'acier, ici une usine d'aluminium, qu'ils soient américains, allemands, etc., défendez-moi, car autrement, c'est votre usine qui va être prise par les Russes. Comprenez comment il y a une alliance autour de Zelensky et pourquoi il lâche pas et pourquoi les Européens sont derrière. C'est pour ça, parce que toute l'industrie qui était très avancée du temps de la fin de l'Union soviétique ukrainienne a été mise entre les mains de capitalistes occidentaux, et que Zelensky leur dit, mais si je disparais et si l'Ukraine s'effondre, vous perdez tout. Donc aidez-moi. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, mais ça, on n'explique pas. Mais c'est bien ça. Et pourquoi Trump, tout d'un coup, saute, j'allais dire, c'est comme la Légion saute sur Colvézi, Trump saute sur l'Ukraine en disant « j'ai pas eu ma part, j'en veux un morceau hein, ». Ouais. D'où les terres rares, etc. Ouais. Mais ce qu'il sait, et ce qu'il dit pas à ce moment-là, c'est qu'il faut essayer de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire que tout ce qui a été pris par les Allemands, par les Italiens, par les Anglais, etc., parce qu'il faut savoir que Zelensky a fait des promesses aux Anglais qui étaient du même type que celle que maintenant exige Trump. C'est-à-dire que les Anglais ont déjà un certain nombre d'usines qui appartiennent à des intérêts capitalistes britanniques. Et donc, Trump a dit, mais attendez, qu'est-ce qui me reste? Ah, camarade Trump, ben voilà, trop tard, tout a été distribué. Hein. Donc, d'où l'idée de dire, les Européens, hein, d'où l'idée de Trump, les Européens, je les écarte parce que je veux ma part. Et il ajoute, ça c'est le raisonnement du milliardaire, j'ai mis 250 milliards sur la table, vous me devez ça. Telle industrie, tel site, tel site, c'est à moi. Et ils ont dit, et les autres sont embêtés, Zelensky, il ne peut pas, parce qu'il dit, mais je l'ai déjà donné à d'autres. Bon. Voilà ce que je voulais expliquer sur cette situation ukrainienne. Et puis je vais revenir, parce que vous savez, on fait des émissions de radio, mais il nous arrive aussi de sortir dans la rue. Parce qu'il n'y a pas que la radio dans la vie. Et puis, il faut toujours confronter ce qu'on peut dire en lisant des journaux, en réfléchissant entre nous, avec ce qu'on voit. Alors ce qu'on voit... Et là, je tends une énorme perche à Habib. Ce qu'on voit, c'est que nous avons fait ce samedi un rassemblement pour soutenir les minorités syriennes qui sont massacrées par le nouveau gouvernement syrien et que ce rassemblement a bien marché.
Oui, ça va très très bien marché. Il y a eu du monde. Tout le monde a pu s'exprimer.
Voilà.
Et c'est sûr que c'est pas terminé.
Mais évidemment.
Parce que le problème, il continue. Et là, il y a 48 heures, il y a eu un grand massacre aussi du côté des Banias et du côté des Tartous.
Voilà.
Donc, il y a eu beaucoup de gens massacrés. Ça continue et malheureusement, l'Europe, l'Amérique font le sourd oreille.
C'est pire. Puisque
C'est pire d'ailleurs sur le média, surtout sur le média français et tout particulièrement les médias européens et américains. On n'en parle pas de ces massacres, de ces épurations ethniques. Et puis là, où je découvre des choses, c'est que ça a bougé. J'ai appris qu'il y avait des Kurdes à la Ouït. Je ne le savais pas.
Ben oui.
Et ils se sont joints à nous pour défendre, enfin pour crier comme quoi arrêter les massacres.
Arrêter
les massacres, tout particulièrement les Alaouites. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Alaouites? C'était des pauvres gens qui, pendant la période Assad, ils étaient dans l'armée, ils étaient des petits fonctionnaires. C'était pour vivre. Et puis maintenant, on les accuse. On les accuse de complicité avec l'ancien pouvoir. Alors qu'il n'en est rien. Mm-hmm. C'est plutôt ces gens-là qui massacrent et qui tuent les Alaouites ou les catholiques. Mm-hmm. Ce sont des gens qu'ils ont appris à tuer depuis plus de 20 ans.
Tout à fait.
Donc, plus de 20 ans que l'ancien pouvoir politique subissait ça. Et ils sont battus. Et malheureusement, il y a eu ce genre de, comment ça s'appelle, la Turquie, Erdogan, qui a manœuvré avec l'État d'Israël et même par la complicité des Américains et des Européens. Il y a eu un coup d'État, donc jusqu'à présent, on ne sait pas comment ça s'est passé. Toujours est-il, il a envoyé ces bêtes, ces gens, vraiment, on ne peut pas les qualifier, ce n'est pas des humains, à les massacrer comme ça, gratuitement. Et moi, ce que je déplore, la France a perdu sa place, non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient.
Au Moyen-Orient, pareil.
Voilà.
Pareil.
Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter.
Oui, je veux dire que dans les diverses prises de parole qui ont eu lieu pendant ce rassemblement, moi j'ai retenu qu'une phrase est revenue qui a été prononcée tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui disait « plus jamais ça ».
Ouais.
Pourquoi dans le monde entier on a dit plus jamais ça? C'est-à-dire qu'on ne voulait plus qu'il y ait à nouveau un Auschwitz qu'on découvre avec tout ce qui s'y était passé. On ne voulait plus qu'il y ait un Hiroshima et un Nagasaki avec l'horreur que ça supposait. On ne disait plus jamais ça. Plus jamais ça, ça voulait dire on n'accepte pas qu'une puissance, quelle qu'elle soit, tue des gens non pas pour ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont.
Ouais.
Vous êtes un alaouite, vous devez mourir. Comme on a dit à l'époque, comme Hitler disait, vous êtes un juif, vous devez mourir.
Oui.
Vous êtes un gitan, vous devez mourir. Bon, ça c'est de la barbarie à l'état pur. Et on pensait, tous ceux qui, comme moi, l'ont dit plus jamais ça, pensaient qu'on n'aurait plus à redire à nouveau plus jamais ça. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a à redire, hélas, que la barbarie est revenue et qu'il faut à nouveau qu'on dise et qu'on crie plus jamais ça. Cette fois, il faut qu'on arrête. Parce que ce qui se passe en Syrie, mais ce qui se passe à Gaza, c'est de la même
c'est exactement nature. L'application, d'ailleurs.
Voilà, c'est de l'application. Vous devez mourir parce que vous êtes palestinien. Les histoires de Hamas et tout ça, c'est pour les jours. On élimine les Palestiniens. Les femmes qui meurent, elles ne sont pas militantes du Hamas. Les enfants qui meurent, les bébés qui meurent, ils ne sont pas militants du Hamas. On tue le Palestinien en tant que tel, comme on le tue maintenant en Cisjordanie. C'est ça la réalité. Donc c'est ce passage, cette option, parce que l'humanité, on a l'impression qu'il y a toujours entre l'option de la civilisation, on se respecte les uns les autres, le fort n'écrase pas le faible, il y a des droits, on les défend. Et là, c'est, vous êtes du côté de ceux qu'on a décidé qui n'étaient pas les bons, vous mourrez. Bon, la barbarie, c'est dire à toi, tu n'es pas de la couleur qui me vaut, tu n'as pas l'opinion que je veux, tu n'as pas la religion qui me plaît, tu vas mourir.
En plus
c'est ça la barbarie.
En plus de ça, ils détruisent tous les sanctuaires religieux.
Bien sûr.
Surtout, particulièrement, chez les catholiques. Les églises ont été pillées, ont été détruites, d'autres ont été brûlées. Et d'ailleurs, il y a un slogan avant, pendant la période, l'ancienne période, les alaouites dans les tombes et les catholiques au Liban.
Au Liban, on ne les veut plus sur le terrain.
Ça veut dire par là, ils peuvent aller au Canada, à Amérique,
oui,
en France.
On ne les veut pas chez nous.
Voilà, exactement, mais pas chez nous. Voilà. Et ça continue, malheureusement. Jusqu'à présent, j'ai appris qu'on ne fait rien.
Voilà. Non, rien. C'est même pire. Alors, je reviens encore une dernière fois sur cette question donc de la barbarie qui est jamais complètement éradiquée. On pouvait imaginer, on a dit plus jamais ça. C'est revenu. Mais c'était revenu avant parce que souvenons-nous en 1915, quand la Turquie a décidé que les Arméniens devaient mourir parce qu'ils étaient arméniens, parce qu'ils étaient en plus chrétiens, etc. Mais donc on a tué le génocide arménien. C'est tuer, être différent.
Ouais,
c'est un acte barbare. La Turquie, est-ce qu'elle s'est vraiment remise de ce mauvais acte? Je me le demande quand je vois les comportements d'Erdogan.
Je ne pense pas.
Voilà.
Je ne pense pas parce que l'Empire ottoman a déjà détruit une bonne partie de la population alaouite.
Voilà.
Qu'ils étaient à Sanjak, à Alexandrette.
Dans Alexandrette.
Oui. Et puis ensuite, c'était la capitale des alaouites, c'était Alep.
Voilà.
Là, c'est pareil. D'ailleurs, le premier sanctuaire qu'ils ont brûlé et détruit, c'est le Hussein Ben Hamdan al-Khassibi. C'est le patron des alaouites.
Voilà.
Ils l'ont complètement brûlé. Sans compter, après, tous les mzarats qui se trouvent tout le long de la côte méditerranéenne, là où les alaouites se recueillent.
Mm-hmm.
C'était, si tu veux, c'est une espèce de... c'est pas des mosquées, mais c'est des saints qui ont été enterrés, qui sont battus pour cette idéologie.
Ouais, des espèces de petits mausolées.
Des petits mausolées. Ils sont tous saccagés, brûlés. Hein.
Voilà.
Ça, un peu partout, ça, j'ai appris ça. Ouais.
Voilà. Alors ça, c'est la barbarie sur un objet, mais quand on a affaire à un alaouite devant soi, c'est la barbarie sur la personne, hein, qu'il soit homme, femme, enfant, etc. Bon, donc, c'est ça. Alors, c'est douloureux. On est en 2025, la barbarie est ressortie, hein, on pouvait la penser éliminée, elle est encore là, et on sait qui en est porteur. Monsieur Netanyahou et son équipe en est porteur.
C'est le principal.
Voilà.
Moi, je dis, tant que le sionisme existe, non seulement dans le monde, mais au Moyen-Orient, c'est un cancer.
Ben voilà.
Et je n'ai pas peur du mot.
Non, non. Et M. Jolani appartient à la même catégorie. Donc.
Oui, puisqu'il n'en parle même pas des Palestiniens. Ces pauvres Palestiniens qui sont subis des massacres et tout.
Mais tu as raison. En fait, on n'a jamais voulu regarder la chose en face, mais tous ces militants, tous ces djihadistes, que ce soit ACMI, que ce soit ISI, etc., n'ont jamais prononcé un mot en faveur des Palestiniens. Jamais, jamais. Donc on est tout à fait dans la logique. Ce que je voulais ajouter, c'est que le gouvernement français s'apprête à recevoir le président par intérim de la Syrie. Et le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ou je ne sais pas l'Élysée, c'est le communiqué célèbre l'installation d'un nouveau... Je dis bol, célèbre l'installation d'un nouveau pouvoir à Damas. Soutenez, retenez bien ça. Célèbre. Même chose à Londres, même chose en Allemagne, etc. Tout le monde célèbre l'arrivée de ce nouveau pouvoir. Parce que monsieur, effectivement, Jolani a présenté son équipe gouvernementale, intérimaire, on oublie vite l'adjectif.
Bernard, on a l'impression que Bachar al-Assad était un grand obstacle.
Ah ben oui, oui, puisqu'il a fallu qu'il s'en aille pour arriver à ce résultat. Tout à fait. Alors, célébrer. Alors, parce qu'il a donc présenté son nouveau gouvernement intérimaire et il a ajouté à ça une déclaration constitutionnelle. Je m'arrête un peu là-dessus. C'est-à-dire, il a fabriqué, lui et son secrétariat, autour d'une table, une déclaration constitutionnelle. Alors, il a eu la prudence de ne pas appeler ça une constitution. Parce que normalement, une constitution, c'est soumis par référendum au peuple, etc. Là, on est assez loin de ce schéma. Bon, il a commencé à alimenter la réflexion sur un texte qui réglerait les rapports. Et il faut savoir quelles conséquences ça a eu lieu immédiatement. On s'était étonné, je crois que tu t'étais étonné aussi, du fait qu'il y a, je crois, une quinzaine de jours, les SDF, donc les Kurdes installés en Syrie, étaient allés serrer la main du nouveau dirigeant de la Syrie. Et donc, on était surpris en disant les Kurdes prennent un risque, c'est-à-dire ils vont serrer la main de ce monsieur. Eh bien, il faut savoir que dans la déclaration constitutionnelle, il n'est fait aucune mention des minorités ethniques.
Ethniques, exactement, voilà. C'est ce qu'on lui reproche actuellement.
Voilà.
Oui.
Hein? Alors, ben, que les Kurdes, alors... Attendez, on sourit à Bib et moi parce que chaque fois qu'on a un cas sur les Kurdes, à la fin, on finit presque les larmes aux yeux en disant ils se sont encore fait rouler dans la farine. Ouais. Parce que là, il s'est moqué d'eux, il est allé leur serrer la main, puis après, dans son déclaration constitutionnelle, il a oublié.
C'est pas lui, hein, c'est Erdogan.
Oui, c'est Erdogan, bien sûr. Erdogan,
directement,
bien sûr.
Oui.
Puisqu'en fait, oui, on peut considérer Jolani comme un espèce d'employé de Erdogan.
Erdogan, moi, c'est ce que je dis.
Faut pas aller chercher beaucoup. Ben, employé, parce qu'il l'a financé, il l'a nourri, il l'a entraîné, il lui a donné le feu vert avec l'appui de Biden au bon moment, début décembre 2024, pour aller envahir la Syrie en entier. Bon, ça faisait un certain nombre d'années qu'il était en préparation de ça, et c'est lui qui a donné le feu vert. Voilà, ça pour Erdogan.
Il a fourni des armes et tout.
Les soins de santé, la formation, le salaire. Alors on était beaucoup plus payé en tant que djihadiste coupeur de tête qu'on était comme conscrit de l'armée arabe syrienne. Rien à voir. Hein. C'était dix fois le même prix.
C'était dix fois le prix.
Bon, tout ça, c'est Erdogan. Alors, si Erdogan a des ennuis maintenant, et manifestement, il a des ennuis, puisqu'il y a quand même des millions de Turcs qui sont dans la rue, dans les grandes villes. Hein. Manifestations à Istanbul, à Ankara, à Izmir, je crois en Antalya aussi, dans beaucoup, beaucoup de villes et tout. Il ne faut pas que nous rêvions. Le parti de M. Ekrem Maninoglu, est un parti pro-occidental, pourquoi pas, hein, mais c'est un parti qui pourrait aussi utiliser les méthodes des révolutions de couleur. Alors, ça ne se passera pas forcément comme ça, mais il ne faut pas l'exclure. C'est-à-dire qu'il peut servir, ce parti, à pousser Erdogan à la porte, parce que du côté à Washington, on pense que peut-être il devient un peu gênant, il est trop rebelle, trop ambitieux et tout, et il faudrait peut-être le faire tomber. Et donc là, on a un parti qui est un parti effectivement laïque, tant mieux, qui est un parti d'opposition à Erdogan, tant mieux, mais dont les orientations sur la politique internationale ne sont pas absolument nettes. C'est ça qu'il faut que nous sachions. Hein. Et il y a une consigne qui circule déjà dans la diplomatie occidentale, rapprochez-vous de la Turquie, c'est-à-dire tournez la page Erdogan et remettez M. Imamoglu, au cas où il y arriverait finalement à la présidence, dans notre camp, dans nos amis.
Son parti s'appelle le...
SHP.
HHP.
Ouais. C'est le parti républicain du peuple, ouais. Ou quelque chose. En gros, c'est ça. Bon. Donc, observons, la partie n'est pas jouée et elle n'est pas si simple qu'on a voulu nous la présenter en disant il y a d'énormes manifestations, et c'est vrai, contre l'emprisonnement et contre l'atteinte aux droits de partis d'opposition. C'est vrai et c'est juste, mais la destination et la trajectoire de ces manifestations et de ce parti n'est pas absolument rassurante. C'est un parti nettement pro-occidental et qui peut servir à écarter quelqu'un qui commence à déranger parce qu'il est un peu trop actif dans beaucoup d'endroits. Ouais. J'ai regardé par exemple les vœux que Erdogan a fait au moment de l'Aïd, donc avant-hier, à tous les chefs d'État musulmans du monde, à qui il a fait des compliments, à tout le monde du droit, le président indonésien, le président de la Malaisie, enfin, il est l'ami de tous les chefs d'État musulmans du monde, et il s'impose un peu comme celui qui donne le la, qui est la température du monde musulman, voilà, c'est lui le porte-parole. Bon. Je ne sais pas si les autres sont tout à fait d'accord, mais enfin, moi j'ai regardé ces télégrammes à tous ces chefs d'État, donc de pays majoritairement musulmans. C'était, je suis là pour célébrer le travail que nous faisons, vous et moi. Et chaque fois, vous et moi, mais moi, toujours moi, toujours moi, toujours moi.
Ça. Non, mais le peuple arabe a bien compris.
Je pense.
Que Erdogan, c'est, si vous voulez, c'est vraiment le mec qui pratique exactement comme les sionistes.
Mais oui, exactement.
Voilà.
Exactement. Donc, voilà, on est parti de cette manifestation pour la Syrie. Non, c'est bien. Il y en aura d'autres, je pense, puisqu'il y a des gens qui viennent. Ça a de l'écho. Et puis, ça fait réfléchir tous ceux qui viennent. Ça nous permet de mettre au point nos raisonnements, nos slogans, etc. Et ça nous permet de montrer que la République française, bien embarrassée, autorise ces rassemblements. Ouais. Parce qu'elle pourrait difficilement dire « j'interdis un rassemblement qui est contre la barbarie ». C'est un peu gênant pour un préfet de police. Donc, effectivement, la manifestation, le rassemblement est autorisé.
Et là, à Paris, ils ont émis une plainte au tribunal contre les massacres des ethnies en Syrie.
Tout à fait.
Alors, ils m'ont demandé de les rejoindre. C'est ce que j'ai accepté volontiers. Voilà.
C'est très bien.
Qu'on le dise, bon.
Non, mais c'est très bien. Oui.
Excusez-moi, quel tribunal ? Dépôt de plainte, à quel endroit ?
À Paris.
Je ne sais pas.
À Paris, c'est ce qu'on m'a dit. On me donnera plus de détails ce soir, je crois.
On en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Non, mais c'est très bien. Donc,
c'est une jeune femme syrienne qui s'en occupe. Elle s'appelle Dima. Dima s'en occupe. Elle m'a dit, envoyez-moi le... Comme quoi votre association est reconnue par la préfecture de police de Marseille et en même temps le récépissé de l'association.
Voilà. Très bien. Voilà. Donc on en reparlera puisque cette action, donc ces manifestations, ces rassemblements pour demander le respect des minorités et le respect de l'opinion dans la Syrie nouvelle. À tout son sens, vu ce que je viens de vous dire sur les Kurdes du SDF se sont encore fait promener, puisqu'ils ont été oubliés dans la déclaration constitutionnelle. Bon, Et je ne sais pas s'il y aura des manifestations le jour où M. Jolani viendra se faire caresser par M. Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée.
Tout le monde qui remonte à Paris pour manifester.
Oui, voilà, on verra bien. Entendu, mais effectivement, peut-être. Alors, est-ce que M. Jolani n'aime pas les caresses ? On verra. En tout cas, ce n'est pas nous qui irons le caresser. Vous pouvez en être certain.
on risque d'être contaminé.
Voilà, exactement. Alors, je vais rester dans cette région-là du monde pour vous parler un peu des activités de M. Trump dans cette région. Alors, il y a des activités qui sont systématiques, c'est-à-dire bombarder le Yémen et les Houthis. Ça, on est à 60 frappes dans la journée d'hier. Ça continue, j'allais dire gaiement, j'ose pas même dire ça. Ça continue sans s'arrêter. Là, M. Trump est fidèle à lui-même, on le reconnaît. Mais là où on en a beaucoup moins parlé, et je pense que vous allez l'apprendre, c'est que depuis quelques jours, depuis le courant du mois de mars, l'aviation américaine, à partir du porte-avions, alors je ne sais plus lequel des deux est resté, apparemment le Truman est parti, parce qu'il avait épuisé tous ses missiles. Donc il est parti les recharger, il ne pouvait pas les recharger, pas. Il a été remplacé par le Vinson, qui est venu du Japon où il était en opération.
C'est ça,
et c'est à partir de celui-là, je pense, bien que ce ne soit pas marqué dans les dernières dépêches de presse, que l'aviation américaine a bombardé la Somalie. Ah bon ? Oui, Monsieur Trump bombarde la Somalie depuis quelques jours. Alors, comment ça se passe? On vous le dira pas. On vous le dira pas parce que c'est un homme de paix. Alors, c'est très très drôle. C'est même pas drôle. Bon, c'est pas vrai. Alors, pourquoi ils bombardent la Somalie? Vous allez voir le calculateur qu'est M. Trump. Là aussi, il faut voir pourquoi il agit et comment il agit. La Somalie est un pays compliqué. Les États-Unis en ont gardé un souvenir cuisant. Souvenez-vous, quand ils ont essayé d'intervenir dans ce qui se passait en Somalie, comment ça s'est terminé pour les soldats de l'armée américaine. Bon, ils ont un très très mauvais souvenir. Par contre, bombarder, effectivement, c'est pas difficile. On est en-dessus, ils sont en-dessous. C'est à la portée du premier imbécile venu. Mais le problème de la Somalie, c'est que la Somalie est d'une part aux prises avec un islamisme qui est plutôt au sud du pays, qui s'appelle les Al-Shaaba, donc du côté du Kenya, mais elle est aux prises avec deux provinces irrédentistes ou sécessionnistes, qui sont l'une le Somaliland, donc la partie nord-ouest du territoire, qui est voisine de Djibouti, et le Puntland, qui est la partie, donc Puntland, c'est la corne de l'Afrique, d'où son nom Puntland, qui est donc la partie nord-est du territoire. Alors, la partie Somaliland, déjà déclaré son indépendance, et elle est tellement indépendante qu'elle a un gouvernement, des premiers ministres, des élections, une armée, etc. Bon, et la Somalie fait avec, parce que la Somalie n'a pas les moyens de réduire cette dissidence. Et puis le Puntland, qui était juste une région qui demandait son autonomie, petit à petit, l'année dernière, a dit « Bon, maintenant, je coupe les ponts, hein, je veux vivre ma vie tranquillement ». Alors ça a commencé à embêter un peu le gouvernement de Mogadiscio en disant « Mais si le territoire s'en va par petits morceaux, j'ai les islamistes au sud et le reste du territoire au nord s'en va, je ne suis plus chef de rien du tout, ou d'un tout petit bout de la Somalie ». Et donc, manœuvre, j'allais dire, géniale de l'administration américaine et de M. Trump, qui dit à M. le Premier ministre somalien « Écoutez, je vais leur régler leur compte à ces gens-là, et en particulier, je vais régler leur compte aux milices islamistes qui sont en train de prendre l'autorité régionale du Puntland comme cible et qui sont en train de lui faire passer un mauvais quart d'heure. » Alors, d'une certaine façon, le Premier ministre somalien était content, parce que finalement, les islamistes sont en train de me débarrasser de ce gouvernement un peu trop autonomiste. Mais enfin, ils n'y arrivaient pas vraiment. Et donc, M. Trump dit « Écoutez, moi j'arrive, je bombarde les islamistes. Regardez, j'ai le beau rôle, les islamistes, j'aime pas ça, je les bombarde, etc. Mais il faut payer. » Alors, il faut payer quoi? Parce que M. Trump ne fait rien gratuitement. Il faut payer quoi? Eh bien, c'est en train de sortir, c'est-à-dire que la Somaliland, qui a compris qu'elle risquait aussi un bombardement, ça n'avait pas commencé, vu que ça pouvait arriver, et le Puntland ont décidé de donner chacun une base aérienne et chacun un port sur le golfe d'Aden à M. Trump. Les États-Unis viennent d'installer, à la suite des bombardements sur le Puntland, une base américaine et un port militaire sur les côtes du golfe d'Aden. Ça permet de bien s'installer. Alors, vous prenez un gouvernement faible, le gouvernement somalien est faible, avec des difficultés donc politiques, les deux provinces sécessionnistes, les islamistes au sud qui lui mènent une vie difficile, et vous exigez le prix de votre intervention. Hein. L'heure de bombardier depuis le porte-avions Vinson vaut une base militaire et un port militaire. Voilà. Donc, il y a deux ports. Un qui est le port de Berbera, qui existait déjà. Et l'autre, le port, j'ai plus le nom en tête, côté Puntland. Ouais. Voilà, ça y est. Donc les États-Unis sont installés et ils ont ajouté, alors je sais pas, c'est pas Trump, c'est son secrétaire à la défense, etc., qui a dit, en plus c'est bien parce que, vous le savez, tout le monde le sait, il y a une grosse base américaine à Djibouti, mais le voisinage avec la base chinoise nous démange un peu. C'est un peu gênant parce que, en plus, si effectivement vous avez une base, alors, ce sont pas mitoyennes, hein, mais c'est sur le territoire de Djibouti qui est quand même tout petit, le moindre mouvement d'avion, d'hélicoptère, la moindre arrivée de bateaux avec des munitions et tout, les Chinois voient ça comme le nez au milieu de la figure, savent absolument tout ce que fait l'armée américaine. Donc là, Trump avait dit, d'ailleurs, Djibouti, j'ai pas trop confiance, c'est mal fréquenté, il y a les Chinois, etc., je m'en vais. Le voilà, la Somalie lui a fait cadeau d'un pied-à-terre sur le golfe d'Aden. Alors de là aussi, il pourra rebombarder les Houthis plus tranquillement, parce qu'il n'aura plus besoin de porte-avions pour bombarder les Houthis. Là, il aura juste à traverser le golfe d'Aden, c'est tout près, ça sera bien plus commode. Bon, heureusement, les Houthis sont courageux, les Houthis sont bien équipés, et ils tiennent le coup.
Et
il continue d'ailleurs à tirer sur Tel Aviv
jusqu'à présent, chaque jour
que le bon Dieu fait, comme on dit. Mais, alors, j'insistais là-dessus parce que ça, on nous le dit pas, parce qu'on dit homme de paix par-ci, par-là, etc. Homme de paix, rien du tout. Hein. Ouais. Il voulait une base, il voulait reprendre pied dans cette région-là, il a fait ce qu'il fallait, et le gouvernement somalien n'est évidemment pas en capacité de lui refuser quoi que ce soit, quoi que ce soit. Et en même temps, il prend une position forte dans une région qui risquait par ailleurs de lui échapper, parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est un pays de plus en plus gros et de plus en plus puissant qui s'appelle l'Éthiopie. Et l'Éthiopie ne mange pas dans la main de Trump. Alors il vaut mieux commencer une manœuvre d'encerclement de l'Éthiopie que d'attaquer directement l'Éthiopie et d'être bien installé. Là, un porte-avions, ça va, ça vient, mais ça ne peut pas être là tout le temps. Deux ports sur le golfe d'Aden, deux bases aériennes, ça permet éventuellement de faire peur à l'Éthiopie chaque fois que
Pourtant, il y a des bases américaines en Arabie Saoudite, dans le Qatar, Abu Dhabi, pas loin.
Pas loin, c'est vrai, mais moins loin que Somalie. Et en même temps, il y a des aspects de politique internationale générale. Il faut savoir que, autant, quoi qu'on puisse en penser, même avec les doutes qu'on peut avoir, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite sont membres des BRICS, comme l'Éthiopie. Donc, de ce point de vue-là, la diplomatie des États-Unis a un peu de difficulté à dire « je leur fais totalement confiance », parce que quand même, s'ils sont dans les BRICS, c'est qu'ils parlent avec les Russes, ils parlent avec les Chinois, ils parlent avec les Africains du Sud. Donc, on est un peu plus prudent. On est un peu plus prudent. Par contre, avec la Somalie, c'est le bonheur, on peut leur faire faire ce qu'on veut, puisqu'ils sont d'une faiblesse extrême, financière, militaire, politique, etc. Là, on est totalement chez nous. C'est beaucoup plus tranquille qu'avec les autres, dont on peut...
Un pays très très pauvre d'ailleurs.
Qui n'a jamais bien marché et ça continue comme ça. Voilà, donc ce qu'il faut voir dans cette région-là, donc l'Éthiopie par contre c'est costaud, et puis ce qui se passe c'est que de bons esprits sont en train de remettre le feu au Sud-Soudan.
Ouais.
Pourquoi remettre le feu au Sud-Soudan? Parce que la situation va se clarifier au Nord-Soudan. Vous savez, et je le dis parce que je m'en réjouis d'une certaine façon, le chef de l'État, enfin le chef en titre de l'État soudanais, a fini par regagner Khartoum, lui et son armée, a fini par écarter les forces de résistance qui étaient soutenues par l'Ukraine, par les Émirats arabes unis. Donc, on peut considérer que, en gros, le Soudan est à nouveau entre les mains du gouvernement officiel, mais que ça fait quelques années, enfin ça fait depuis deux ans en gros, qu'il n'était plus maître de la situation. Donc dès l'instant où le Soudan retombe sur ses pieds, retrouve le calme, c'est en train, je veux dire, politiquement c'est réglé, militairement c'est réglé, après il faudra peut-être le temps un peu de passer en jugement toutes les forces terroristes qui ont mis en cause le gouvernement, mais là le tournant est passé. Il faut remettre le feu au Sud-Soudan. Et le Sud-Soudan, le feu... Alors le Sud-Soudan, je dis ça pour tous ceux qui disent « Ah, le respect des frontières, c'est sacré, etc. » Alors, regardez quand même, révisez un peu votre histoire. Qui a découpé le Sud-Soudan du Nord-Soudan? Bon, ça vous dit quelque chose, hein? C'est les États-Unis. Alors, quand on vous dit « le respect des frontières, le respect des frontières », riez doucement. Pensez aussi à l'Érythrée qui a dû faire la guerre à l'Éthiopie pour définir son État. Bon, on n'a pas crié au non-respect des frontières. L'Érythrée l'Érythrée a gagné la guerre, l'Érythrée a reconstitué son pays. Son pays, et le Sud-Soudan a été fabriqué par les États-Unis pour
il a fallu, tout faire pour le séparer.
Voilà. Alors, il se trouve qu'au Sud-Soudan, il y a un monsieur qui est chef d'État, monsieur Clear, et puis il a un opposant historique, et il y a une espèce de lutte tribale entre deux tribus du Sud-Soudan, qui sont toutes, pas des tribus musulmanes, c'est des tribus ou animistes ou chrétiennes, peu importe, qui ne s'entendent pas du tout, et à chaque fois que l'Occident, les États-Unis ont besoin de mettre le feu au Sud-Soudan, ils remettent le feu sur cette guerre de tribus. C'est en train de recommencer, parce que ça serait très ennuyeux que le Soudan soit enfin calmé et soit maître de ses décisions, en particulier d'ouvrir une base militaire russe sur le long de la mer Rouge, ce qui est un enjeu tout à fait important, et donc le laisser faire. Alors il ne faut pas le laisser faire, il faut que le Sud-Soudan redevienne un abcès dans le Nord-Soudan. C'est pour ça qu'il a été créé. On recommence. Voilà. Alors, j'insiste là-dessus parce que vous voyez que toute cette région-là, j'ai parlé du Soudan, du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est appuyé par l'Ouganda, par l'Ouganda de M. Museveni, qui est aussi un drôle de démocrate. Bon, j'insiste pas là-dessus. Donc, la crise en Somalie qui continue. Donc, on a vraiment une région en ébullition avec le Yémen de l'autre côté, etc. Alors, le Yémen, quand même, je rappelle aussi, pour bien comprendre la situation, c'est que le Yémen des Houthis, ce n'est que la partie classique du Yémen nord, c'est-à-dire le Yémen des montagnes, en gros. Yémen historique. Bon. Par contre, le territoire du Yémen, tel que vous pouvez encore le voir sur les cartes, il s'étend à Aden, le long du golfe d'Aden, assez loin jusqu'à Oman. Et donc là, qui y a ? Il n'y a pas les Houthis. Les Houthis, ils ne sont pas à Aden. Là, il y a deux occupants, l'un qui est les Émirats Arabes Unis, l'autre qui est l'Arabie Saoudite. Bon. Qui sont, eux, farouchement anti-Houthis. Seulement, le problème, c'est que les Houthis sont plus forts militairement et donc ils ne peuvent rien y faire. Vous voyez, donc on a une situation explosive, mais le fait que Trump ouvre ses deux bases à cet endroit-là montre qu'il est bien dans ses intentions de mettre le maximum de désordre dans ce coin-là du monde, s'il n'y était pas déjà. Ceci pour bien éclairer. Et ça explique aussi, alors c'est très très intéressant, ça explique aussi pourquoi, j'en parlais la semaine dernière, il y a eu des manœuvres militaires, surtout navales, organisées par l'Inde, dans cette zone-là du monde. Et oui,
L'Inde ou l'Iran ?
Non, l'Inde. L'Inde a organisé, des manœuvres. Alors, particulièrement, et c'est vrai, j'en ai pas parlé pour la Somalie, on sait que le golfe d'Aden a été un des hauts lieux de la piraterie maritime. Ça s'est un peu diminué, mais ça a été un moment très très dangereux, puisque pratiquement plus aucun bateau ne pouvait passer sans être arraisonné. Donc il y a eu une réaction internationale à laquelle la Chine, la Russie, l'Inde ont pris part. Mais l'Inde continue, et donc les manœuvres qu'elle avait organisées il y a une quinzaine, effectivement, avaient rallié toutes les marines des pays littoraux, donc le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, tout le monde avait participé. On est donc, l'océan Indien, ça a un sens de ce point de vue-là. L'Inde a une espèce de zone d'influence qui est réelle. Et j'insiste un peu sur ce sujet parce que nous, Français, on est nourris à l'Afrique francophone et on ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passe dans l'Afrique qui n'est pas francophone. Le seul point qu'on avait, c'était Djibouti, mais ça pèse plus très lourd. Par contre, on ne sait rien sur ce qui se passe en Tanzanie, pas grand-chose sur ce qui se passe au Mozambique, pas grand-chose sur le Kenya. On est des étrangers dans l'Afrique de l'Est. Mais c'est là que ça se joue, parce que là, il y a un face-à-face où il y a d'une part la Russie qui a ses ambitions et elle veut être présente, l'Inde qui est là, la Chine à l'occasion, puis c'est pas pour rien qu'elle a sa seule base militaire à l'étranger qui est à Djibouti. Là, on a un face-à-face de tous les puissants par rapport à cette zone-là de l'Afrique. Beaucoup plus que du côté ouest pour l'instant. Mais on ne nous en parlera pas parce que la France a zéro intérêt. Si, alors, l'intérêt, c'est Mayotte. Mayotte. Et c'est pas pour rien. Alors, replacer dans ce contexte que je décris très très rapidement, la décision de M. Valls et de M. Lecornu d'ouvrir une base militaire permanente française à Mayotte. Ça fait partie de ce schéma. On veut, alors, toujours. La France est un gagne-petit dans ces jeux. On va mettre un bateau avec un vice-amiral et puis on va dire qu'on commande l'océan Indien. Bon, c'est une farce, mais M. Macron aime bien les farces, même en dehors du 1er avril. Voilà. Tous les autres jours. Et j'allais en arriver, je regarde l'heure, à l'expression de la nouvelle stratégie intermédiaire ou intérimaire des États-Unis, concoctée par le Pentagone, sous la plume du nouveau ministre de Défense, M. Hegseth. Ouais. Alors, que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires et vous allez comprendre ce qui se passe près de chez nous. Les choses sont tellement claires que dans cette nouvelle stratégie, il est clairement indiqué que le seul ennemi stratégique véritable, c'est la Chine. Bon, vu sa puissance, ce qui veut dire que, et c'est dit dans les commentaires, ce qui veut dire que la question de la Russie est secondaire, alors ça on l'avait compris, et doit être traitée seulement par les alliés. C'est-à-dire que le document du Pentagone dit et écrit, nous, armée des États-Unis, on s'occupe principalement de la Chine et de lui régler son compte parce qu'elle est trop en avance, elle est trop puissante, etc., etc. Je ne développe pas, vous avez compris. Par contre, la question de la Russie, on la laisse au bon soin de nos amis européens, payer, affronter l'armée russe, on comptera les points plus tard, vous verrez bien. Donc ce qui veut dire que, comme M. Macron, M. Starmer et quelques autres s'agitent pour dire qu'il faut une armée européenne, ils ne font qu'obéir aux ordres tels qu'ils sont rédigés noir sur blanc depuis la semaine dernière par le Pentagone. C'est clair, hein ? Du tout une décision européenne, non. Macron est un agent des États-Unis. Les États-Unis ont dit maintenant, c'est les Européens qui s'occupent de tenir la dragée haute à Poutine aussi longtemps que possible, et Macron obéit, comme M. Starmer, comme M. Merz, etc. Ils obéissent. Ce sont des laquais des États-Unis. Ils font ce qu'on leur dit de faire. À nous d'en changer, c'est le problème des citoyens français. Mais les choses sont parfaitement claires. Il n'y a pas un lâchage. Alors, il y a toute une presse qui dit « les États-Unis ont lâché les Européens ». Pas du tout. Les États-Unis ont clairement défini les rôles. Nous, c'est la Chine en priorité. Vous, c'est l'Ukraine et la Russie en priorité. C'est tout. Alors, mettez les moyens, mettez les troupes, etc. Faites-vous casser la figure. Tant pis pour vous. Nous, on a autre chose à faire. On a une urgence. L'urgence, c'est la Chine. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas complètement tort parce que la Chine pèse très très lourd. Militairement, alors, on n'a pas testé militairement, elle est probablement aussi capable que la Russie aujourd'hui, mais elle n'est pas en opération. Par contre, économiquement, elle devient totalement écrasante pour les États-Unis. En avance sur tout, sur à peu près tous les domaines, sur l'intelligence artificielle, sur les télécommunications, sur le nucléaire, sur l'astronautique. C'est absolument ébouriffant la capacité d'innovation de la Chine actuelle. Et donc, bien entendu, les États-Unis, ils ont compris, ils voient. Et donc, il faut casser ça, puisque c'est la seule issue qui reste, casser la Chine. Alors, ça sera une autre paire de manches. On verra. Mais il est bon que vous rendez compte que c'est ça qui se fait, ce partage des rôles. Donc, cette Europe dont on nous dit sa grandeur, son indépendance et tout, elle est un pion dans le jeu des États-Unis, et il y a des sous-pions, des sous-pions, on dit pas ça, on va faire une soupe avec des sous-pions, c'est ça. Bon, il y a des sous-pions qui sont Macron, qui sont Starmer, et puis, il y a d'autres, l'autre aspect aussi de cette coalition militaire, c'est que ceux qui sont très très endettés, comme la France, l'Italie, l'Espagne, ça, disent « mais moi, je ne peux pas m'endetter plus ». Et donc, on va être obligé, ce que je vous disais tout à l'heure, de piocher dans l'épargne des Français, parce qu'on ne va pas encore emprunter, d'autant plus que les banques vont dire « vous empruntez beaucoup, vous avez déjà beaucoup, beaucoup d'intérêts à nous verser, ça commence à suffire ». À moins que M. Kohler, à la Société Générale, saigne sa banque pour sauver Macron. Je ne pense pas que ce soit un raisonnement de banque.
Excusez-moi.
Je t'en prie. Oui.
Tous les Européens ne sont pas d'accord pour aller dans le même sens. Enfin, pour.
Non, il y en a qui traînent les pieds. Alors, il y en a qui traînent les pieds pour des raisons financières, par exemple. En Italie, c'est très, très clair. Alors, je m'arrête sur l'Italie parce que Mme Meloni, on connaît son parcours politique. Mme Meloni, elle est aux prises quand même avec une opposition de rue à sa politique d'agression de la Russie, qui n'existe pas en France aujourd'hui. Alors, je minimise pas les petits rassemblements, les appels ici et là qu'il y a eu, mais c'est des appels appelés ici par la CGT, là par des petits partis d'extrême gauche et tout. C'est des appels où il y a quelques centaines de personnes. En Italie, on a aujourd'hui de grosses manifestations de rue contre la guerre et contre la participation à la guerre. Et donc, Mme Meloni, elle tient compte de ce qu'exprime la rue en Italie. C'est tout à fait important de le voir. Ça serait, je pense, la même chose en Grèce aussi, de la même façon. En Espagne, je pense que ça va venir progressivement. Voilà. Voilà, pour ces raisons-là. Donc, il y a des pays qui vont traîner les pieds. Alors, on en savait déjà que la Hongrie, la Slovaquie ne voulaient pas aller à la guerre et tout. Bon, ça, c'est vrai. Mais en même temps, quand je vois que M. Orban va recevoir M. Netanyahou et qu'il ne va pas le mettre en prison alors qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale, je m'arrête à dire que M. Orban est très, très sérieux. Il est sérieux parce qu'il ne veut pas que la guerre d'Ukraine et des conséquences sur son pays, mais par ailleurs, bon, le fait d'accueillir M. Netanyahou, je crois que c'est aujourd'hui ou demain pour plusieurs jours. Donc sans le mettre dans un fourgon de police, ça veut dire que M. Orban s'accommode très très bien du massacre des Palestiniens. Alors, qu'il veuille pas la guerre en Ukraine, c'est possible, parce que c'est trop près de chez lui, mais le massacre des Palestiniens, ça ne le touche pas beaucoup. Ça, je le retiens contre lui.
D'une part, d'autre part, si c'est une personnalité palestinienne qui est accusée, auteur, il l'aurait tout de suite mis en prison.
Mais bien entendu. Mais bien entendu. Alors, à propos de mise en prison, puisque ça, c'est d'aujourd'hui ou c'est d'hier, il y a deux bras droits de M. Netanyahou qui sont en prison depuis hier.
Oui,
c'est lui ça. Est convoqué. Alors, pour des raisons... Alors, c'est une vieille affaire. Il faut savoir qu'au moment de la Coupe du monde de football au Qatar... Vous vous souvenez, alors il y a eu beaucoup de campagnes de presse au sujet du mauvais traitement fait à tous les travailleurs étrangers qui construisaient les stades, etc. etc. Ça, vous vous souvenez. Et puis, le Qatar était un peu embarrassé par cette campagne internationale et ils avaient demandé à leurs amis israéliens, je mets ça entre guillemets, je le souviens, à leurs amis israéliens, de rectifier un peu le tir dans la presse occidentale. En disant, on compte sur vous. Ils avaient mis, je pense, un peu d'argent dans la mécanique. Les deux personnes qui ont été arrêtées hier par la police israélienne sont ceux qui avaient reçu les chèques ou le liquide pour faire ce genre de travail. Et Israël, les médias israéliens, s'étaient prêtés à ce jeu de rectifier un peu l'image du Qatar, si gravement endommagé par le mauvais traitement à la main-d'œuvre étrangère qui réalisait la Coupe du Monde. Voilà. Alors encore, c'est une nouvelle affaire sur le dos de M. Netanyahou.
Shabak, son président qui a été écarté aussi par Netanyahou.
Voilà, oui.
C'est ça. Voilà.
Et dernière chose, je regarde, je vais vous faire un petit développement, vous allez voir ce que c'est. Sur la population ukrainienne, parce que l'Ukraine est en conflit, en guerre depuis un certain temps, vous le savez, ça a commencé donc en 2014, à la suite du coup d'État, et il y a un organe ukrainien qui vient de publier des chiffres sur la population ukrainienne. Alors je rappelle, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, donc 91, il y a 52 millions d'Ukrainiens sur le territoire ukrainien, et ce rapport, qui est un rapport d'origine ukrainienne, dit qu'aujourd'hui, il reste à peu près 32 millions d'Ukrainiens sur place, donc moins 20, et que les 20 autres sont à l'étranger en exil. Bon. Alors, il y en a qui sont partis très très vite après le coup d'État, il y en a qui sont partis au moment du début des combats en 2022, mais ça fait beaucoup de monde, ça fait presque la moitié de la population ukrainienne qui a fui. Et quand on interroge, enfin cet organisme ukrainien interroge pour savoir s'ils ont envie de revenir, la majorité dit non, parce qu'ils disent, ils se rendent compte quand même, ils sont au courant, ils se laissent pas prendre à la propagande étrangère, ils disent qu'est-ce qu'on va retrouver, dans quel état est notre pays, et puis à qui on aura affaire, qui sera au pouvoir, etc. Ils n'ont pas fui uniquement parce qu'ils n'étaient pas contents dans leur maison, ils ont fui parce qu'ils avaient affaire à de drôles de gens qui étaient à la tête de leur pays. Bon, ils n'ont pas envie de revenir. Pour une majorité d'entre eux. Deuxième argument qui est utilisé, parce qu'on les a un peu sondés, pourquoi, qu'est-ce que vous comptez faire quand la guerre sera finie? C'était ça l'idée. Alors ils disent, on n'a pas envie de revenir, d'une part parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, et puis, par contre, on a une inquiétude, c'est-à-dire que on a été tellement bien traité là où on a été accueilli que peut-être ça ne durerait pas. Parce qu'effectivement, on a mis des logements à d'autres dispositions, on a ouvert des écoles, on a donné tous les moyens, on nous a donné accès à tous les droits sociaux, chômage, RSA, etc. Je rentre pas dans le détail. Est-ce que ça va durer une fois que la guerre sera finie? Ah ben ça, c'est pas sûr. Vous avez été beaucoup, beaucoup gâtés. Et en fait, on attendait de vous que vous souteniez la guerre de l'Ukraine contre la Russie. En fait, là où vous êtes installé maintenant, vous avez... Voilà, retrouvez votre petit confort. Vous avez sauvé votre peau, ben, tant mieux pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus, on veut sauver sa peau. Mais retourner avec un Zelensky numéro 2 à la tête du pays, ça ne les intéresse pas tellement. Et puis, certainement, le pays est dans un état assez inquiétant. Et ils ont bien raison de se méfier.
Il y a à peu près combien, 10 millions à l'extérieur ?
25 millions. 25 millions d'Ukrainiens. Alors, il y en a qui ne reviendront jamais, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis. Ah, il y en a beaucoup en Pologne, il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a un peu partout en Europe. Il y en a le Monténégro, par exemple. Moi, j'ai eu des témoignages précis. Il y a 600 000 habitants au Monténégro, officiellement, quand il n'y a que des Monténégrins. Mais il y a probablement 200 ou 300 000 Ukrainiens sur le territoire du Monténégro. Alors, ils sont confortables parce que le Monténégro, c'est une destination touristique de qualité. C'est la côte méditerranéenne avec toutes ses beautés le long de l'Adriatique. Et donc, on y est très bien, à condition d'avoir un peu d'argent. Alors, évidemment, qui sont partis ? Il y a ceux qui ont fui parce qu'ils risquaient, ils ne voulaient pas faire le service militaire et aller se battre contre les Russes. Puis, il y a ceux qui sont partis parce qu'ils avaient une grosse voiture et de l'argent.
Ouais, ils avaient beaucoup les moyens.
Voilà. Ouais. Ils avaient les moyens. Ils ont pu acheter le douanier au passage de la frontière roumaine, etc. etc. Il ne faut pas, faut pas non plus idéaliser l'Ukrainien moyen. Ils ont sauvé leur peau. C'est tout. Dernière chose que je voulais noter, le Premier ministre du Groenland a dit à M. Trump, ouais, mais je ne veux pas venir chez vous. Vous avez beau dire que vous allez faire ceci, cela. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, à bon entendeur, salut, j'allais dire. Hein. Vous avez dit que j'allais... Non, non, je ne vais pas me jeter dans vos bras.
Ben, il a insisté, Trump. Il a
oui,
dit.
J'ai insisté. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le Groenland. Je crois n'avoir rien oublié, si ce n'est quelques...
Il y a que, dis-nous. Les Iraniens.
Alors, les Iraniens disent on ne veut pas négocier avec les États-Unis. Ils rappellent, à juste titre, que M. Trump a annulé un accord sur le contrôle de la filière nucléaire en Iran quand il était premier président. Et les Iraniens ont beau jeu de dire, mais cet accord-là nous convenait puisqu'on l'avait signé. Vous l'avez dénoncé, vous n'avez qu'à dire qu'on reprend l'accord, on n'en parle plus, mais on n'a rien à négocier. Nous, on a déjà mis sur la table tout ce qu'il y avait à mettre sur la table à ce moment-là.
Ouais, c'est vous... Ils ont dit qu'on ne négocie pas avec la pression.
Tout à fait. Il n'y a aucune raison de faire ça. Et ils ont placé, je le signale pour dernière information, vous savez qu'il y a au milieu du détroit d'Ormuz, qui est le détroit qui commande donc la sortie du pétrole iranien, Koweïti, etc.
40% du pétrole.
Oui, 40%. Voilà. Il y a trois petites îles au milieu du détroit d'Ormuz qui ont été équipées avec les meilleurs missiles hypersoniques iraniens, ce qui veut dire que tout avion étranger ou bateau étranger qui approcherait de trop près de cette zone-là, même pas arriver à l'Iran, hein, au détroit d'Ormuz, je suis très précis, pourrait avoir des ennuis. Donc le message est très très clair. Alors il y a eu un message états-unien en disant on met le gros de notre flotte de bombardiers stratégiques à Diego Garza, et les Iraniens ont dit on met nos missiles hypersoniques, juste on vous attend, venez voir. Voilà. On en est à ces états de préparation à la guerre.
Ils ont signalé aux pays arabes que comme ils ont des bases américaines et tout, s'il y arrive un problème, vous savez, c'est à votre risque.
Bien
ils
sûr.
L'ont dit.
Ils l'ont dit, oui, tout à fait.
Mais nous sommes des voisins, on respecte les voisins.
Voilà, mais si effectivement c'est depuis votre territoire que nous sommes bombardés, on ripostera. Et on a les moyens de le faire, on la démontre. Voilà les nouvelles. On se retrouve mardi prochain avec plaisir. Merci Roselyne, merci Habib,
merci.
Et bonne semaine à vous tous qui nous écoutez.
Merci tous. Il y avait... Thank you.